Dans la seconde lecture, vous avez entendu cette voix forte qui disait « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Durant le temps pascal, nous lisons une suite de textes de ces passages de l'Apocalypse. Alors, la raison de ce choix est bien évidente dans l'extrait de ce dimanche. Qu'est-ce que c'est que l'Apocalypse ? Que nous montre ce livre de l'Apocalypse qui explique le choix de ces passages ? Eh bien, c'est que, nous le voyons dans ce texte, au centre d'une liturgie grandiose, il y a la foule des croyants qui chante la gloire de l'agneau immolé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils chantent le triomphe, la victoire du Christ ressuscité, victoire du Christ ressuscité sur toutes les puissances de mort et de mal. Le Christ ressuscité, effectivement, a vaincu la mort au matin de Pâques. Et ce Christ est identifié à un agneau, comme ces agneaux qui étaient conduits en sacrifice dans le temple de Jérusalem. Agneau immolé qui porte sur lui les traces de la violence qu'il a subie. Et il s'agit exactement du même message que celui de tous les autres récits d'apparition du Christ, nous venons d'en entendre un dans l'évangile de Jean, mais c'est dans un genre littéraire différent et avec une finalité propre dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez, le mot apocalypse, hein, c'est la translittération d'un mot grec, ça veut dire lever le voile. Hein. Calypso, hein, vous vous souvenez, c'est celle qui dissimule. Révéler, donc apocalypse, ça veut dire donc révéler, faire voir. Et cela, faire voir, ce n'est pas nouveau dans la Bible, ça a toujours été la tâche de tous les prophètes. Les prophètes révèlent, hein, c'est-à-dire qu'ils attirent l'attention, ils focalisent le regard sur une situation, sur une réalité. Il y a ce grand livre de l'Apocalypse à la fin du corpus biblique, mais vous le savez bien, il y a bien d'autres apocalypses dans la Bible ou même dans les évangiles. Ce dernier livre que l'on appelle l'Apocalypse, hein, à la fin de la Bible, auteur présumé, un certain Jean, hein, c'est un visionnaire qui est exilé, hein, sur l'île grecque de Patmos. Les spécialistes sont plutôt d'accord pour penser qu'il ne s'agit pas du même auteur que celui de l'Évangile, que nous avons lu ce dimanche par exemple, et des lettres de Jean, même s'il y a des parentés. Donc c'est un auteur qui s'apparente à l'Évangile de Jean ou aux lettres de Jean. Mais il y a une parenté parce que tous ces textes ont été écrits à la fin du 1er siècle. Et c'est là où on voit la finalité du texte de l'Apocalypse, c'est que dans le contexte d'un groupement chrétien très minoritaire et socialement fragile et même persécuté. Alors, le visionnaire de l'Apocalypse, c'est un exilé, hein, il est en exil forcé, il est probablement condamné pour délit d'opinion. Cet exil forcé, c'est une pratique commune au temps de l'Empire romain. On éloignait, hein, des centres culturels et politiques ceux qui émettaient des opinions divergentes. Le système politique de l'époque, donc vous voyez entre Néron et Domitien, est assez oppressif, voire totalitaire. Et ça explique, hein, le ton, la tonalité du livre de l'Apocalypse. Donc, ce livre de l'Apocalypse, c'est une littérature de résistance. Et une résistance principalement contre toutes les tentatives qui conduisent à diviniser l'empereur, à en faire un personnage quasi divin. Ce n'est pas une sacralisation totale, mais c'est, de la part de l'empereur, un moyen de se mettre sur un piédestal au-dessus du commun des mortels. Donc c'est une façon pour lui hein, de recevoir, de convoquer, de favoriser un soutien populiste parce qu'il prétend se montrer exceptionnel dans les décisions à l'emporte-pièce hein, qu'il prend tout d'un coup en surprenant tout le monde, qui séduisent les foules, qui attirent les réseaux sociaux et qui ne sont dénoncés que par une partie du Sénat ou par des philosophes, justement, menacés d'expulsion du grand centre politique et culturel qu'est la Rome ou l'Italie de l'époque. Donc, dans ce climat d'oppression, le visionnaire de l'Apocalypse invite à porter un regard très critique sur la société romaine et sur le pouvoir politique qui encourage le populisme. Alors, ce n'est pas sans tension, d'ailleurs, avec une autre frange du christianisme qui, elle, et on a des traces dans les textes bibliques, cette autre frange du christianisme prône beaucoup plus une intégration sociale. Il y a, vous irez voir, des textes qui font des invitations pressantes à se soumettre aux autorités politiques, quelles qu'elles soient. Donc il y a des tensions hein, dans les interprétations des textes bibliques. Alors ce message de l'Apocalypse est souvent difficile à comprendre, à percevoir, parce qu'il est essentiellement exprimé dans un langage symbolique. Et des symboles dont nous n'avons pas forcément immédiatement les codes. Un peu, si vous voulez, comme quand on rêve, quand on a en fait des beaux rêves, ou dans des images, bien souvent, même les tableaux dans nos musées qui reprennent ces codes symboliques, ces grandes scènes sont difficiles à interpréter parce que voilà, nous n'avons plus les clés pour comprendre le message qu'il nous livre. Ici, donc, dans notre texte, nous avons une somptueuse liturgie, une grande célébration dans laquelle c'est Dieu qui siège sur un trône et avec lui ou sans lui, c'est pas très clair. Bref, il y a un agneau immolé. Certains ou certaines d'entre vous auront probablement dans la tête l'agneau mystique de Saint-Bavon à Bruxelles. Bon, voilà, donc les frères Van Eyck ont mis en peinture cela, l'agneau mystique, l'agneau immolé au centre de cette immense liturgie. Voilà. Un mouton donc ensanglanté. Il est entouré par des myriades d'anges, d'animaux et de vieillards, donc de sages, qui l'acclament. Alors, ce grand spectacle, cette liturgie à grand spectacle, évidemment, n'est pas sans rappeler les célébrations des empereurs, tous ces populistes qui adorent ça d'ailleurs, qui s'offrent à l'admiration des foules, foules en délire, et ainsi l'homme qui apparaît ou la femme qui apparaît comme ça et dit, mais pose la question à la foule, mais qui est digne d'admiration? Bon, évidemment, la réponse est claire. Bon. Mais ici, ici justement, dans cette littérature de résistance, on nous dit qui est digne d'admiration? Eh bien, c'est l'agneau immolé. Oui. Donc, c'est-à-dire, c'est un parfait représentant de la non-violence, un parfait représentant de celui qui se soumet volontairement. Sans ouvrir la bouche à cette absurdité hein, de la force aveugle, du délire hein, de la populace. Il n'ouvre pas la bouche. Et au moment où on le frappe, et où on le met à mort, il se soumet. Donc vous voyez bien, cette littérature de résistance montre bien, met en scène tout le contraire de ce que l'empereur fait quand il exalte le populisme. Et bon, évidemment, lui réagirait non pas par la soumission ou par la douceur, mais par la répression et la vengeance. Mais voilà, ici, dans cette littérature de résistance qu'est l'Apocalypse, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que c'est l'agneau immolé qui est digne, c'est lui qui est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire, louange. Autant d'attributs, évidemment, qui sont habituellement revendication des princes et des puissants de ce monde. Et donc, comme pour mieux dénoncer cette captation des foules, notre texte insiste pour dire ce sont les. En fait, qui est-ce qui adore ? Ce sont les anges, ce sont les animaux, ce sont les créatures au ciel, sur terre, sous terre, sur mer, sous mer. Tous ces êtres qui s'y trouvent, qui proclament la louange de l'agneau immolé. Et donc, face à tous ces êtres, l'empereur, lui, n'est pas grand-chose, est peu de chose. Son pouvoir est dérisoire, finalement, devant la célébration cosmique des créatures non humaines, des vieillards sages qui chantent les louanges de l'agneau immolé. Et puis, ce sont les quatre animaux les plus puissants, c'est-à-dire le lion, le taureau, l'aigle, avec l'homme, qui prennent, eux, la parole et qui disent « Amen, oui, nous ratifions, oui, c'est bien l'agneau immolé à qui il faut offrir honneur, puissance et gloire. » Vous l'avez compris, l'Apocalypse ne cherche pas à révéler l'avenir, la fin de la Xème série de La Guerre des Étoiles, relue et recorrigée. L'Apocalypse, c'est pas ça. L'Apocalypse nous dit ce qui est arrivé. Elle nous révèle, elle essaie d'ouvrir nos yeux, nos consciences, notre intelligence, notre imagination à ce qui est arrivé. Oui, c'est arrivé. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Eh bien, il est arrivé que Jésus, le Christ, mis à mort comme un agneau immolé, eh bien, il est ressuscité. Il a vaincu les puissances de mort, de destruction, de violence aveugle, de force immorale. Oui, c'est fait, c'est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Ce monde ancien, bon, bien sûr, il se reproduit encore. Ce monde ancien où les empereurs, les populistes mettent les foules en délire, bien ce monde-là, il est en sursis. On ne peut plus lui faire confiance. C'est ça que nous dit l'Apocalypse. C'est que ce monde ancien, ces mœurs-là, elles sont en sursis. Le Christ a vaincu tout cela une fois pour toutes. Et c'est sur cela que nous pouvons nous appuyer, prendre force. C'est l'agneau immolé à qui il faut donner sagesse, puissance, honneur et gloire. C'est à lui et à nul autre qu'il faut faire confiance, et non pas à tous ces pitres-là qui se démènent sur leur tribune. Ce monde qui s'idolâtre lui-même en séduisant les foules par la force, par les démonstrations clinquantes, ce monde-là, nous dit l'Apocalypse, a montré sa vanité, son délire, son ivresse. C'est au contraire maintenant à la puissance de vie du Christ ressuscité que nous pouvons nous en remettre joyeusement, et c'est vraiment à lui que nous pouvons dire comme Pierre, « Oui, tu le sais bien, Seigneur, c'est toi que nous aimons. »